toi et moi, cherchons le mini-mini-bob. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-dam. La-la-la-la-la-la-la-la. Ta-ta-ta, mini-mini-bob. Le club de la science bob. Et le reste en fait tout est en train de faire.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 29 novembre 2008. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dès l'immédiat, voici...
votre comédie adolescente que tous les petits enfants de plus de 30 ans attendent tous.
Samedi 29 et dimanche 30 novembre à Diagora à La Bège, c'est le Toulouse Game Show, un festival autour des jeux vidéo, des mangas, des Samedi midi, le Super Week-end sera en direct au TGS à Diagora à La Bège.
Ça va être difficile.
Plus d'informations sur radio-fmr.net et toulouse-game-show.fr.
Bon, maintenant les filles, ça suffit un peu. Hein.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Pour la petite anecdote, hein, la salle qu'on a réservée au Muay Thai Diagora était munie, c'est vrai, c'est véridique, vous pourrez le vérifier sur le salon, de deux toilettes de chaque côté de la salle. Donc il y avait un accès aux toilettes qu'on a décidé de condamner pour le salon, pour éviter tout petit problème et toute rencontre spéciale dans les toilettes.
Radio FMR présente le supplément week-end. Le magazine des cultures geek. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, merci d'être présent avec nous, avec donc les moyens légers. Aujourd'hui donc pas de du sport qui est en régie finale et on lui dit coucou. Point de JB non plus qui malheureusement il est coincé et surtout il n'ose pas avouer à sa copine que oui il irait bien à la salle Hentai. On est juste au-dessus en fait hein, de la salle Hentai.
Attention, il n'y a pas que ça ici. Bonjour
loin de là. Bonjour Ultimato, comment vas-tu?
Super.
Mais aujourd'hui nous aurons en invité spécial et bien nous aurons Gimli, le nain de la communauté de l'anneau.
Ouais,
voilà, qui passe. On aura Bernard Minet.
On aura David Prowse, Dark Vador.
Voilà, on aura Robocop. Enfin, s'ils veulent bien venir.
Chibicop. Qui était surnommé comme ça sur internet.
Voilà, véridique. Et on aura. S'ils veulent bien venir, en tout cas, dans le stand qui est au fond à gauche après l'entrée. Bref, comme vous l'avez deviné dans l'extrait pré-générique, on a été tout émoustillé, mais il n'y a pas que ça. Il y a loin d'avoir que ça, donc on est en ce moment à Diagora, à la Bège, voilà, je ne me suis pas planté cette fois-ci.
C'est bien,
il y a du progrès, je sais, voilà. Et beaucoup de choses sont à voir, hein, de toute façon, il n'y a pas que ça. Ce sera aujourd'hui et demain, sachant qu'il y a un concert à partir de 20h à côté, un concert ultra dark et tout ça, on verra tout le reste. Et accessoirement, vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Si vous passez tout à l'heure cet après-midi, peut-être vous nous croiserez. On ne pourra pas vous dire bonjour. On galope de tous les côtés. Et puis, accessoirement.
De toute façon, si vous voulez venir nous voir et que vous êtes à la Bège, vous pouvez pas nous louper. Il y a les gros autocollants infirmières de partout. Nous avons nos badges aussi. Vous pouvez nous alpaguer et nous on se fera un plaisir de se faire photographier gratuitement dans les allées. Ce sera un plaisir.
Voilà, on rappelle donc que certains les stars qu'on a donné tout à l'heure. Si vous voulez, ne serait-ce qu'une dédicace, ils demanderont.
Il faudra payer, oui.
Voilà, ils font payer. C'est le modèle américain de toute façon de ce côté-là. Accessoirement, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple, il y a un quiz musical qui a lieu en ce moment à côté de nous.
Un
blind test sur les génériques et tout ça. Ils en parleront tout à l'heure. Donc c'est Coucou Circus qui l'organise. Il y a des maquillages, on peut se faire donc une gueule balafrée, on peut prendre le thé avec Harry Potter.
On peut se faire photographier voilà, au stand Harry Potter également, on peut se faire photographier devant le vortex de la Porte des Étoiles.
Voilà, on leur posera la question tout à l'heure à savoir comment ils font pour la ranger. Ça fait partie donc de nos petits gags de base. Voilà. Accessoirement, donc, on va avoir les premiers invités qui vont pas tarder à venir. Ouais. Comme je l'ai dit, on est tout au fond, à gauche, pour ceux qui nous cherchent.
On remercie d'ailleurs les invités qui ont accepté de venir nous parler, parce qu'il faut savoir que le prix des stands sont très très chers, donc il faut qu'ils rentabilisent. Donc évidemment, on les remerciera jamais assez de venir nous parler à l'antenne.
Exactement. Accessoirement, donc, que dire de plus ?
D'après
il y a du monde. On remercie en tout cas les organisateurs d'Agora de nous avoir ménagé une place. Et promis juré, tout à l'heure, Davy ne viendra peut-être pas ne pas nous emmerder. Voilà.
Ouf.
On a l'habitude à force. Qu'est-ce que l'on peut faire pour meubler ? On va commencer par la bande dessinée ou par de la presse. On va commencer par la presse avec un magazine féminin qu'on n'a pas ouvert. Hein. Voilà, il est arrivé. Ça s'appelle Japan Lifestyle. Un peu moins de 3 euros. C'est un bimensuel apparemment, le numéro décembre-janvier qui vient d'être lancé, le premier numéro donc est arrivé en kiosque hier, le féminin pétillant sur les nouvelles tendances du Japon.
Ouais, voilà. Et surtout en couverture aussi il y a un petit test, si vous aussi vous avez couché avec un geek, est-ce que c'est grave?
Tu demandais ça à ma copine ou tu veux que je demande à la tienne?
Non, je pensais plutôt à ta copine.
D'accord, c'est gentil pour elle. Toute la suite du manga aussi de leur côté. Si vous n'avez pas assez du supplément week-end, hein, je ne sais pas. Révélation sur l'industrie du sexe au Japon. Voilà, mais surtout, alors vous le devinerez jamais, c'est un féminin. Et en même temps, ça s'adresse à des jeunes. Mais en poster, il y a un poster central. Seulement le verso du poster, c'est un patron de couture.
Oui.
Avec un cosplay à monter soi-même. Donc, ah oui. Des cosplayers, il y en a plein. Hein. Il y en a déjà qui sont maquillés en des personnages de jeux vidéo.
Ah oui, c'est un patron couture à l'échelle réduite, d'accord.
Ah oui, va falloir photocopier en très grand à la photocopie où on est stagiaire. Et puis voilà. En tout cas, bon, c'est clair, c'est un appel à publicité. Mais par contre, c'est assez étonnant d'ailleurs ce mélange à la fois de mangas, de, je dis ça en déconnant bien sûr, de jeux vidéo, tout le reste, oui ça se fait pas, hein, on peut s'électrocuter. Hein.
Oui, c'est un gars qui joue à la Nintendo DS dans son bain, oui.
Voilà,
le sexe made in Japan.
Voilà, on est tombé sur le sujet intéressant que nos copines, non, Chantal lâche cette massue, sinon je vais voir Poulpe, parce qu'il paraît que tu sors avec lui. Ne mens pas, j'ai des informations là-dessus. On va entamer les sorties.
On va rappeler la référence. C'est Japan Lifestyle, pour voilà. 3 euros. Voilà, c'est un magazine féminin.
Sortie bande dessinée, on va commencer avec Sof, The Plus Beau Métier du Monde. Le premier tome s'appelle Emily, Graine de Génie. Ça vient de sortir chez Paquet, je t'en prie. C'est un livre qui ne pouvait tomber mieux en plein mouvement social. C'est sorti donc chez Paquet Édition. Je rappelle donc en ce moment, il y a les grands mouvements de profs, la grogne à propos de la suppression de postes, aussi à propos de la réduction budgétaire, de l'augmentation de demandes d'obligation de résultat, et en même temps la superbe gaffe de la ministre ministre de l'éducation qui se met à fliquer les blogueurs. Ça tombe bien, c'est une blogueuse qui a fait cette bande dessinée, une blogueuse qui est d'ailleurs chez Overblog, c'est l'histoire de Sof qui est prof, et comme la plupart des blogueuses, des fois elle monte au blues le stress de son travail, et c'est pas du tout évident. Ça l'est encore moins parce que sur son blog Les Jours Ouvrables, c'est chez Overblog donc, elle le dit elle-même, ça carbure au Xanax, et c'est écrit dès en haut. En fait, cette bande dessinée, c'est l'adaptation de son propre blog, et elle est prof de français dans un collège, et on sent que le niveau est plutôt faible, notamment vis-à-vis d'une certaine Emily. C'est une petite jeune qui a 14 ans et qui pond les meilleures perles, mais on sent que c'est un personnage composite de presque tous ses élèves. C'est consternant, il n'y a pas d'autre terme. Mais entre nous, elle a cherché. Elle a les cheveux courts, elle n'a pas la télé. Bref, être prof, c'est aussi se mettre au niveau des parents et des enfants, surtout. aussi sauvage et violent envers les pauvres enfants en fait que les parents peuvent être envers justement leurs profs. Bizarrement, moi je préfère plus Martin Wittberg qui fait Everland, qui fait aussi un blog.
BD, le journal du remplaçant également. En BD.
Voilà, justement, j'allais y venir. Qui fait aussi un blog d'actualité sur Le Monde et que l'on connaît pour les publicités qu'il fait pour un assureur online à la télé. C'est les petits personnages en patate qu'il fait. Et il a fait donc le journal du remplaçant comme ça avec ce style graphique. C'est beaucoup plus conciliant, c'est beaucoup plus. Tandis que Sof, c'est vraiment c'est du. Je pète un câble, etc. Autant Martin Wittberg a un dessin qui est très léché, très graphique, très épuré, autant elle c'est la ligne crade à la vile main et elle y va à fond. Mais bon, c'est de la caricature pure et c'est un bonheur. Et après tout, et ben, il a fallu retransformer tous ces billets pour que ça rentre dans la maquette d'un album de BD. Le bouquin est arrivé en librairie mardi prochain, en plein pendant les manifs de profs, je crois qu'elles n'ont pas eu lieu à Toulouse. C'est une provocatrice, quoi, en fait. Sauf The Plus Beau Métier du Monde, tome 1 s'appelle Émilie, graine de génie, et c'est chez Paquet. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu, d'avoir lâché ton stand, puisque tu tiens en fait une boutique qui est en plein centre-ville de Toulouse. Voilà. Si je dis le nom de la boutique, il faut que tu trouves deux concurrents qui offrent les mêmes prestations que toi. D'accord.
Oui.
Donc je vais dire que c'est la boutique imaginaire.
Donc en manga, on pourrait citer Asiance. Et un deuxième concurrent.
Tu peux dire un concurrent mort, il y avait Kyodai.
Oui, donc c'est plus un concurrent.
Ouais, non, mais le CSA va nous tomber dessus. Donc c'était l'obligation, c'était de citer au moins trois marques.
Et Virgin.
Oui, exact, qui font pas mal de goodies. Ouais. C'est vrai que ton boulot, toi au départ, tu as été libraire. Donc à l'époque, c'était chez BDciné dans le rayon
fait,
SF.
Oui.
Donc
oui.
Voilà, maintenant c'est devenu album. Tu t'es lancé, tu as monté ta propre boutique, tu es parti donc dans le goodies. Quand tu t'es lancé, c'était pas du tout évident. Maintenant ça a bien éclaté, tu es bien installé.
Oui, tout à fait.
Est-ce que il y avait vraiment est-ce que c'est toi qui as suscité le marché ou est-ce que le marché a décollé justement parce qu'il ne demandait que ça?
Non, je pense que je suis arrivé pile au bon moment, il faut dire, parce que le marché décollait. Et franchement, au début, c'était ce que j'avais monté, c'était une librairie de science-fiction.
Oui, exact.
On s'en souvient,
avec, ouais. Avec quelques DVD et des bandes originales de films.
Voilà, je pensais pas du tout aux goodies, j'en avais un petit peu. Et puis,
avec un postal, il y avait.
Voilà, ouais. Et puis j'ai vu que ça marchait bien, j'ai eu une ou deux propositions, et de fil en aiguille, ça s'est développé presque tout seul, on va dire.
Ça fait maintenant quelques années que tu as lancé cette boutique. Est-ce que tu as vu une évolution dans la clientèle? Est-ce que ce sont plutôt des fans de manga qui sont venus et qui sont ensuite tu as pu voir des fans de comics ou de blé franco-belge, ou c'est l'inverse, ou comment est-ce que ça a évolué, ou est-ce que ce sont les mêmes qui viennent te voir depuis le début?
Non, il y en a beaucoup, ce sont les mêmes. Après ça tourne parce que Toulouse est une ville étudiante, voilà, ça se renouvelle assez vite chaque année. Non, après la clientèle a pas vraiment évolué. Si, j'ai pu constater, peut-être parce que j'ai plus de choses maintenant, j'ai plus de jeunes maintenant, d'enfants qui viennent avec les parents, où ça fait magasin de jouets en même temps que magasin pour collectionneurs.
D'accord. Est-ce que parce qu'on t'a vu à Japan Expo, on va reposer la question, on va y venir tout à l'heure justement, et pourquoi tu es présent ici. Mais est-ce que tu y serais allé si tu n'aurais été que libraire? Est-ce que tu serais monté à Paris? Est-ce que tu serais venu ici pour monter ce genre de stand si justement tu serais resté libraire, si tu t'étais pas lancé dans le goodies?
Non. Enfin, en même temps, vu le type, j'aurais fait d'autres salons puisque je suis libraire science-fiction fantasy. Mmh. Non, en tant que libraire science-fiction fantasy, non, je serais pas venu.
D'accord. Et donc le goodies représente une part importante actuellement de ton chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs, y a deux circuits en général. Il y a le circuit officiel, il y a le circuit officieux. Il y a carrément le produit aussi de contrefaçon. Comment tu travailles
On travaille en évitant. Alors la contrefaçon, c'est un problème qui est, d'après ce que j'ai pu voir, vraiment spécifique au manga et à la Japanimation. Mmh. Il y a beaucoup de chinoiseries un peu partout. Ben, on essaye d'éviter quoi, un maximum. Quoi. Y a, on connaît à force, en pratiquant, on connaît les distributeurs, les fabricants officiels. Y a des fois, c'est vrai, y a même des distributeurs européens qui revendent eux-mêmes des contrefaçons. Donc,
alors, corps défendant, mauvaise surpri- comme par hasard.
Mauvaise surprise en défendant un label officiel. Donc après, bah, au fur et à mesure, on apprend à les repérer. Bon, mais c'est toujours les mêmes. Il y a un ou deux très gros fabricants fournisseurs en Chine qu'on connaît. Et voilà, donc
d'accord.
Après, on évite.
Est-ce qu'il y a parfois des articles que tu vends dont tu peux être vachement fier? Tu dis, ça, c'est le fleuron, ça, je suis vachement fier de l'avoir. Je sais qu'on a beaucoup d'amis trentenaires qui ont les yeux qui pépitent quand ils voient un vrai casque de Sauron ou ça roumane super bien. Est-ce que toi, tu as été fier particulièrement d'un article qui a été vendu ou pas d'ailleurs? Je sais qu'on s'est vu tout à l'heure, tu étais vachement fier de montrer un Batman qui t'avait été acheté par un autre stand.
Oui, tout à fait, j'aime bien les belles pièces, mais notamment non plus au niveau du cinéma. En
fait, il y a un concurrent qui est venu se fournir chez toi là.
Oui, enfin il y a un petit moment déjà, oui. Batman Condor Nature. Ouais. Et oui, j'aime bien les belles pièces enfin, en cinéma ou en comics notamment. C'est vrai que de temps en temps, on en prend une, pas forcément parce qu'elle va se vendre, mais parce que ça fait joli. Là, en mon cas, on a un Totoro qui fait 1m50 au magasin.
Alors quand on prend ce genre de pièces qui sont à l'échelle 1, enfin pas pour Totoro, ouais. Hein, j'imagine, ouais. Mais est-ce que techniquement pour l'installer, c'est aussi compliqué que pour un home cinéma?
Non.
À
non,
domicile.
Non, du tout. Il y a quelques morceaux à fixer. C'est beaucoup plus compliqué quand il faut les expédier.
D'accord. Accessoirement, donc on a parlé tout à l'heure. Tu es monté à Japan Expo. C'est en plein été. C'est un moment de creux en général pour le commerce. Mais pourquoi toi, toi qui es commerçant à Toulouse, pourquoi tu es monté à Japan Expo? Il y a quand même d'autres boutiques comme la tienne et surtout encore plus à Paris.
Japan Expo, déjà, c'est un très gros salon qui draine beaucoup de monde. Donc, ils ont annoncé, je crois, 135 000 personnes pour la dernière édition. Donc, au niveau purement économique, c'est intéressant. Mais même quasiment dès la 2e, 3e année, j'ai pris l'habitude d'essayer des salons sur Paris, de monter, de voir si ça marchait, si ça marchait pas. Ouais, j'ai pris l'habitude de me déplacer de toute manière à droite à gauche.
On sait pas si c'est une info que tu peux nous révéler, mais quelle est la part de gens qui viennent juste pour se faire plaisir pour les yeux ça, et quelle est la part de gens qui viennent pour acheter
sur Japan Expo
non, dans ta boutique de
dans
tous les
boutique,
jours
ouais.
Au centre de Toulouse.
C'est confidentiel?
Non, c'est pas confidentiel.
C'est au pif,
mais je n'en ai pas la moindre idée, très honnêtement. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui viennent juste voir, regarder. Mais qui reviennent après. Donc
quand tu es présent ici, c'est parce que c'est l'approche des fêtes et que c'est l'occasion de booster son chiffre ou parce que c'est une publicité pour rappeler, mais j'ai ma boutique en centre-ville, j'ai plus de choix là-bas.
C'est un peu des deux, effectivement. C'est un niveau publicitaire parce que même en étalant depuis 8 ans, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on existe en fait. Donc au niveau publicité, ça marche. Et puis bon, tout le principe des salons aussi, ça fait tourner du stock, ça... C'est toujours intéressant à ce niveau.
D'accord. Bah, en tout cas, Raphaël, merci beaucoup d'être venu parce que c'est là où... Enfin, là, il y a un petit creux, hein, il est midi. Mais j'imagine que toi, tu en attends beaucoup tout à l'heure. En tout cas, tu tiens le magasin imaginaire et tu es obligé de reciter deux concurrents, de leur faire la pub. C'est horrible, je sais, mais
donc,
c'est la vie.
Eh bien, Azeron, c'est Virgin, donc...
Voilà, mais donc, néanmoins, ta boutique, elle est située à côté de la place de la Bourse.
Rue Saint-Ursule.
Rue Saint-Ursule, voilà.
Oui, merci à vous.
Merci à toi,
Raphaël.
Ciao. Voilà, et en attendant que l'on passe à l'invité suivant, je suis désolé pour le titre suivant qui arrive. Et peut-être que Raphaël va m'en vouloir, mais voilà, c'est un morceau des Malpolis. C'est pour le plaisir, voilà, les bidules nuls et les machins moches. C'est sur l'autre piste, voilà. FMR, le supplément week-end, en direct du Toulouse Game Show à la Beige.
On accumule dans tous les coins des tas de pilules et de machins. L'enfer dans lequel nous vivons est pavé de bonnes inventions. L'indispensable truc inutile qui résout les problèmes qu'on se pose pas. Si miniature et discret qu'il faut le montrer, sinon on le voit pas. Si tu ne l'as pas encore, bravo, c'est que la pub n'est pas arrivée à te faire entrer dans le panneau. On va bien te l'offrir sans tarder. Comme j'ai pas de téléphone portable, mec, j'ai plein de potes qui en ont. Pour pas trop me faire chier à leur table, j'ai une vieille Game Boy d'occasion. Avec tes piercings au menton et aux lèvres, t'as l'air rescapé d'une partie de pêche comme un brochet, la gueule transpercée d'hameçon. Ton treillis, voilà que même les vieilles se mettent à trouver ça très chic. L'été prochain contre le soleil, et c'est donc un képi de flic. Les bidules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Les bidules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Oh, tous ces trucs qu'on nous vend pour pas ressembler à nos voisins, pour être différents, justement, tout le monde a les mêmes secrets. Hein. T'exagères, y'a des différences, observons deux groupes de rappeurs. On peut, avec un peu de patience, jouer au jeu des sept erreurs. Finalement, on va bien se marrer si un jour débarquent nos clones. On leur dira trop tard, on est déjà tous des copies carbone. Les pilules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Les pilules nulles et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches.
Les pilules nulles, les machins moches, plein le cul, plein les poches. Les pilules nulles, les machins moches.
Les Malpolis sur Radio FMR dans le supplément week-end. On va entamer, on va continuer, excusez-moi, dans les sorties bande dessinée le temps qu'on a les invités qui arrivent. Voilà. Je suis en train de chercher mon casque.
Je disais que tu avais
Entends, Guy, je vous entends.
Oui, je ne vous entends plus. Je disais que tu avais une utilisation toute particulière du subjonctif.
Comme d'habitude, voilà. On va parler d'une bande dessinée qui est arrivée tout récemment chez Soleil. Ça s'appelle Pandemonium. C'est une trilogie, donc le deuxième tome est arrivé. C'est de Christophe Beck au scénario, quelqu'un que l'on connaît pas mal, surtout pour ses polars, et Stefano Raffaele qui fait le dessin. Thomas, sinon tu vas pas pouvoir le voir. Voilà, le voici. C'est le deuxième tome, s'appelle Le Tunnel, et c'est sorti donc chez Soleil. Ça, c'est une bande dessinée qui est une bande dessinée d'horreur, mais qui est basée sur une histoire réelle. Alors cette histoire en question, elle est relativement simple. On est à la fin du 19e siècle aux États-Unis, du moins. Dans ce petit flashback rapide, dans cette histoire que je vous fais. La tuberculose a pris des proportions épidémiques telles qu'elle devint la première cause de mortalité aux États-Unis. Oui, je sais, devant les armes à feu, les lynchages racistes et les remèdes à la tuberculose. Bon, ça arrive. Voilà. Louisville, dans le Kentucky, a eu le triste record de la proportion de décès par tuberculose. Ça a été la première cause de mort. Ça a été l'une des villes où il y a eu, mais vraiment, vraiment, vraiment de ce côté-là, le plus de morts. À côté de cela, ben, la ville et les autorités ont construit donc dans les bois, un peu à part, le Waverly Hills Sanatorium, qui était donc un établissement justement où on pouvait traiter donc les tuberculeux. D'abord, on les a isolés, hein, c'était facile, c'était dans les bois, ils n'étaient pas dans la ville. Et finalement, et ben, cet établissement bénéficia des meilleurs spécialistes des États-Unis, eut très vite une réputation, et tous les malades justement des États-Unis, ben, on leur disait, ben, allez vous faire soigner à Louisville, à Waverly Hills Sanatorium. C'est considéré comme la maison la plus hantée des États-Unis, et pas à tort. Le bâtiment principal, inauguré en 1920, par sa dimension imposante, rappelle toute la démesure de ce qu'il a vécu. Entre 1920 et 1960, plus de 63 000 personnes y ont péri. C'est pas petit, quoi, hein, vous voyez. Elles sont mortes de la tuberculose, mais pas que, justement. L'histoire, la bande dessinée en tout cas, commence en 1951. Doris y avait été soignée et guérie quand elle était jeune fille, dans les années 30. Elle y amène justement sa fille Cora, qui semble elle aussi atteinte de tuberculose. Ce que Doris ne sait pas, c'est qu'en fait ce sanatorium a un taux de mortalité effrayant et pratique encore une médecine qu'on peut qualifier un peu de hors limite. En fait, la réputation de l'établissement a laissé place à de nombreuses dérives. Des traitements dangereux alors qu'une thérapie sûre et efficace existe, les antibiotiques. On l'aura compris, il en faut peu pour transformer la réalité en fiction. Car les événements que j'ai racontés jusque-là n'ont rien de fictif. C'est que la réalité, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire. Et à partir de là, on a établi que parmi les 63 000 victimes, une bonne partie ont succombé à des expériences qui ont été totalement contraires à l'éthique médicale. Mais il n'y a pas eu de grand procès. C'est l'un des grands abcès qui n'ont jamais été crevés sur la médecine aux États-Unis, outre d'autres pratiques justement qui ont été limites. Je vous rassure, en France, on a eu d'autres. Et ça remonte à seulement la Seconde Guerre mondiale. C'est le fantastique qui va prendre place quand Cora va y voir les fantômes, les âmes volées aux malades qui vont la guider dans les terribles secrets de Waverly Hills. Ne vous laissez pas berner par le titre, tout est dans l'ambiance. C'est un excellent bouquin d'horreur, bien construit et solidement ancré dans l'une des histoires les plus célèbres et les plus sordides des États-Unis. Pandemonium, le deuxième tome, s'appelle Le Tunnel, de Christophe Beck et Stefano Raffaele.
Thank you.
Le supplément week-end en direct donc à Diagora, à la Beige, du Toulouse Game Show. On a une surprise pour vous. On a un Robocop, un vrai, en pur, en métal, en acier et en finish poli
un
qui est arrivé.
Chibicop.
Voilà, Chibicop.
Tiny Cop.
Voilà, donc ben présente-toi, je t'en prie. On sait que tu es la plus grande fan de Robocop, de la franchise, et tu es carrément venu en costume, et c'est impressionnant. Mais vraiment, tu es venu en plus avec un ami, c'est pas n'importe qui, c'est donc le réalisateur des mini-séries qui va
Julian
bientôt.
Grant.
Bonjour, Julien.
Hi, very nice to meet you. On a donc un traducteur qui est là parce que donc canadien ou américain?
Oui, canadien. Je ne peux pas parler français, so je vais être. Currently living in Chicago, USA.
Ok, donc il vit actuellement donc à Chicago. Vous l'avez compris beaucoup mieux que moi. Donc en fait, c'est évidemment pas mal de questions de fans que l'on a à faire vis-à-vis justement de la fan. C'est impressionnant, vraiment. Il y a un musée.
Merci.
Qui est à côté.
Oui, tout à fait,
ouais. que tu as monté. Alors la première question, elle est relativement simple. C'est qu'est-ce qui t'a fait plonger dedans?
Alors moi j'ai connu Robocop donc en 88 et donc du coup ben j'ai vu ça la première fois, j'ai vu une affiche quand je suis allée au cinéma. À l'époque je connaissais quelqu'un qui avait un cinéma donc j'étais toute jeune et je pouvais rentrer malgré mon âge et donc du coup ben j'y suis allée et j'ai vu ce film et j'en suis ressortie complètement fini les dessins animés, fini les Barbie, fini les G.I. Joe et tout ça. On n'était plus à l'âge des Playmobil, c'était autre chose.
Tu avais quel âge quand tu as découvert le film?
C'est simple, je crois que je devais avoir dans les 11 ou 12 ans à l'époque.
Du costaud.
Oui, je suis pas toute jeune.
Same question about you. How did you first meet Robocop and how are you fall into this passion? Je crois qu'on a un problème de micro donc on va utiliser celui-là, je suis désolé.
Let's see. Ah,
sorry.
Yeah.
Beza.
Bonjour. Okay. I was very lucky. In Canada, I make lots of films like Roger Corman, and the studio came to me and said, Julien, can you reinvent RoboCop and make a mini series? And I said, yes, please. the problem, though, always is very little money. And we wanted to make the longest RoboCop film ever, and so we made a six-hour RoboCop film, and it's four films, but they're really one story. And you can watch them by themselves, but if you watch them all at once, you'll see the story of RoboCop, Alex Murphy, Le Human, the man, more than the le machine. Mm.
Donc, Julien se dit très chanceux d'avoir pu travailler sur le projet Robocop. En réalité, on lui a proposé comme ça et il a sauté sur l'occasion. On lui a dit carrément réinvente la franchise Robocop. On lui a proposé de travailler dessus assez librement malgré un budget très restreint. Et il a décidé de faire le film Robocop le plus long possible. Ce qui a donné un film de 6 heures qui est découpé en 4 épisodes. Et les épisodes peuvent être vus chacun séparément comme des épisodes à part entière, indépendants, mais ils forment malgré tout un ensemble.
Voilà, donc l'ensemble en question, it's Prime Directive. Quel âge avais-tu quand tu as découvert le premier film?
How old were you when you discovered the movie?
I saw the movie like everyone else when Monsieur Verhoeven brought it to life in
1987.
Oui. Yeah. And again, I would have been 25.
Oui, donc voilà, donc, il avait 25 ans.
En France, il a été diffusé qu'en fin d'année 87, début 88. Donc là, moi où je l'ai connu, mais qu'aux États-Unis, il était déjà diffusé depuis un petit moment. Et au niveau de ce film, au début, il a été Verhoeven lui-même était très très, on va dire, pas sceptiques, mais comme beaucoup de réalisateurs se disent waouh, est-ce que mon projet, mais pourquoi les gens vont voir tout ça, finalement c'est un projet. Et eux aussi à l'époque n'avaient pas non plus de gros budget et ont quand même réussi à faire quelque chose qui maintenant a quand même 20 ans et est toujours présent dans l'esprit des gens. C'est à dire que quand les gens voient Robocop, c'est la première image qui a marqué, c'est celle de Verhoeven. Mais ce qu'il faut voir au sujet de Julianne, et ça moi le travail de Julianne, parce que pour moi c'est la personne qui s'est rapprochée le plus justement du premier film, c'est qu'il a su garder ce côté obscur, côté sombre et suicidaire de Robocop. Il a su faire passer le temps, c'est-à-dire que Robocop Prime Directive, ça se passe 10 ans après la conception de Robocop, c'est-à-dire de tout ce qui s'est
le
passé.
Le CPR a racheté Détroit tranquillement, l'a renommé à son nom.
Alors oui, puis on découvre en fait que un humour noir, vraiment à la Verhoeven, entre le Verhoeven et le Frank Miller. Donc il a su garder une authenticité à l'histoire de base qui est vraiment surprenante par rapport aux confrères qui ont fait par exemple Robocop 2 ou Robocop 3, comme tout le monde le sait, donc Erwin Kirchner et Fred Decker pour le 3, où ils ont voulu donner une identité et une couleur à Robocop en mettant des accents, des pointes d'humour. Mais il faut savoir que Robocop à la base c'est pas quelque chose de drôle, c'est une société. Robocop vit dans une société très... Comment vous expliquer ?
C'est l'univers, c'est le cyberpunk pur et dur, c'est-à-dire...
C'est pas forcément cyberpunk, on va dire que c'est une parodie sarcastique de la société dans laquelle on se dirige nous-mêmes.
L'ultralibéralisme. Voilà,
non, même pas, parce qu'au contraire, l'OCP privatise, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment mettre main basse sur tout et n'importe quoi, y compris les vitamines, le bain de le truc à chiottes pour bébé ou n'importe quoi. Et donc c'est l'OCP privatise ça, et donc Julianne a vraiment su montrer que l'OCP était arrivé tellement à un statut où ils se sont autodétruits dans leur système de production, puisqu'en fait OCP ça veut dire Omni Concerned Product, donc voilà. Et donc, ça a donné une image très particulière au film de monsieur Julian Grant.
Et ce qui avait caractérisé aussi le film de Verhoeven, c'était l'outrance dans la violence également. Comme nous, on n'a pas vu la mini-série, est-ce que c'est une direction qu'il a aussi souhaité prendre, ou est-ce qu'il s'est un peu dédouané de
Alors,
cette approche?
Pour ma part, je vais dire mon avis. Après, je pense que ce sera à monsieur Julian Grant de le dire, parce que c'est lui qui est le plus approprié à ça. Il a fait une forme de violence, mais qui était accessible pour tous. Il y a une violence par le regard, par l'aspect très dur, c'est-à-dire qu'il nous présente les faits, c'est-à-dire qu'on nous montre un Robocop usé, fatigué, mais les scènes sont très intenses, c'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, il peut avoir des crises de violence. Voilà. C'est-à-dire que le côté humain dans Prime Directive ressort, c'est-à-dire qu'il survit sous la machine et on découvre un Robocop humain qui pleure, qui hurle, qui crie, qui redécouvre ce qu'il est et ce qu'il a été. Et dans cette violence de l'image et dans la performance de Pat Fletcher qui incarne le rôle, on arrive à un degré de violence qui n'est pas forcément le sang, les armes et tout le reste, mais on arrive à un degré visuel qui est assez impressionnant, surtout dû au budget. C'est ça qui est impressionnant, voilà.
For me, violence was very important in Prime Directives. Alex Murphy, Robocop bleeds.
Oui, donc la violence est assez importante donc dans Prime Directives, et c'est vraiment l'esprit de Murphy qui prime là-dedans, voilà, et qui est important.
It's also for the fans, it was very important for moi to forget about the television series.
Donc voilà, il a voulu absolument oublier la série produite par Tyler au Canada auparavant.
And you know, again, make the film very political and very angry, because RoboCop l'étranger, he now needs to reclaim his heart.
Voilà, donc un film beaucoup plus politique et sur lequel ben, Robocop il demande justement un peu un retour sur son âme
sur
et son
cœur. Sur ce qu'il a fait.
Sur ce qu'il a fait. We saw in France, it was published in a comic book last year. Ça a été publié l'an dernier donc en France. L'adaptation du scénario fait par Frank Miller, the script written by Frank Miller pour les films 2 et 3, for the second and third movies. You would like to do it really? Vous auriez aimé plutôt le faire?
Deux et toi.
The script of Frank Miller. In fact, it's also about corporations who are gripping their hand on it. C'est vraiment les grandes compagnies qui ont mis leur main dessus et qui l'ont édulcoré.
L'exécution est deux et toi est très 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 bad. You know, it's they were not very they got worse and worse.
Ça allait de pire en pire, donc c'était vraiment mauvais sur les films 2 et 3, et sans parler de la série.
C'est ce que j'ai dit, en fait, voilà. On perdait l'authenticité du personnage, et c'est pour ça que je dis que, pour moi, Robocop, c'est l'histoire qui est entre Robocop 1 et Prime Directive. Pour moi, ce qui est au milieu, c'est pour les gamins. C'est pour, on va dire aussi malheureusement, faire de l'argent.
Vendre des jouets.
Vendre une marque, c'est triste, mais on peut dire que après, dernièrement, Robocop, c'était Robocop TM quelque chose R plus.
Flying Robocop.
Tout ce que tu veux comme copyright et c'est dommage. Même si je collectionne tout et n'importe quoi sur Robocop, ça n'empêche pas.
On a des questions là-dessus.
Voilà.
We got some questions about the fanatisme. Justement, c'est à propos de ce musée que tu as créé, enfin de cette collection que tu as.
C'est un vrai musée.
Comment tu as commencé à réussir à récolter les props, donc les décors, les costumes. Il y a même le véhicule devant, donc de l'OCP.
Alors, c'est souvent bon du système.
We've got the OCP car just car. In front, not there, just here. Voilà.
Alors, j'ai récupéré au fur et à mesure. J'ai monté une première collection. Je m'en suis séparée ensuite. J'ai remonté une deuxième collection et là, ça a été la bonne. Et je me suis lancée à fond. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de retrouver les objets du tournage. Une grande aventure pour moi. Parce que quand on arrive après à tout, on se dit, on essaie d'aller plus haut. Et donc j'ai contacté à droite, à gauche, au hasard, enfin pas au hasard mais avec le coup de chance, j'ai dit on me répond pas, et le net pour ça est fabuleux. Et donc j'ai envoyé des mails à droite, à gauche, et j'ai eu des réponses par rapport à mon projet.
C'est-à-dire alors ça s'achète, ils les cèdent, ils sont contents de libérer de
alors,
la place.
Alors ça se fait par vente privée, souvent. Il y a aussi, donc, et ça je tiens à le remercier, monsieur Julien Grant qui m'a fait des cadeaux du tournage, et pas plus tard encore que tout à l'heure.
Oh.
Donc j'ai eu encore deux très très belles pièces encore aujourd'hui, donc je suis ravie. Et donc en fait, la plupart du temps, pour acquérir ce genre de pièces, il faut être référencé comme Profiling History, Christie's, ces gens-là, enfin toutes les grosses boîtes qui font du recensement de props. Qui rachètent en fait les stocks, qui les exposent à un moment donné, qui les référencent. Donc après, il faut savoir que quand on détient des props de ce genre-là, ils sont référencés, stockés. Les gens après savent, par exemple, quand c'est Profiling History, il y a des numéros et ils savent et ils peuvent nous contacter à tout moment en nous disant, on sait que c'est vous qui avez ça, est-ce que vous pouvez le mettre à disposition à la rigueur.
D'accord, donc il y a épris comme se font réellement les musées avec les toiles.
Exactement, il y a des cotes, il y a des prix, et surtout il y a aussi de la concurrence, parce qu'on est 2-3 dans le monde. Malheureusement, j'ai tout raflé. Je suis désolée pour eux.
Ok.
Donc voilà.
C'est une question un peu commune que l'on a à poser. Donc on va d'abord la poser au réalisateur de la mini-série. Quelles sont ses relations avec le créateur du personnage original? What are your relationships with the original creator of the Robocop story?
The original creators, director Paul Verhoeven and producer John Davidson saw my work and were very appreciative. They enjoyed it a great deal. And again, that's all I can ever hope, is to please not only the original creators. I worked with Ed Neumeier, the original writer, on Prime Directives as well. And again, I'm very thankful that I had the opportunity to make the films.
Mais là, là, il va me falloir une assistance, je suis désolé. Donc on a compris que Paul Verhoeven avait beaucoup apprécié, et le producteur aussi, donc le travail. Et ensuite, donc là, je suis désolé.
Alors oui, elle avait beaucoup apprécié le travail de Julian, et du coup, ça lui a permis de rencontrer Andrew Miller, le créateur du personnage, et de discuter avec lui un peu plus en avant de ce personnage de Robocop.
Donc la même question, on va la poser donc à Tibi, à Tibi Cop.
Murphy 38, Murphy 38 pour ceux qui pour le net, voilà.
C'est-à-dire, ça se passe comment? Est-ce que les ayants droit te contactent déjà en disant on a des props pour toi, ou ils voient ça un peu mal, l'exploitation de la marque?
Non, en principe, c'est assez bien vu, parce que je pense que ma démarche, elle est relativement noble. C'est de faire découvrir Robocop autrement, et les gens, ça les éclate de se dire « Ah ouais, ça, je l'ai vu dans le film, je le vois en vrai, c'est génial !» Donc ça, c'est toujours glorifiant. Ou alors de se dire que quand on est en costume, on arrive devant des personnes, et les personnes me disent « Ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, ce soir, je vais le voir !» Donc ça, c'est aussi cool. Pour ce qui est donc des personnes, donc des créateurs, donc Frank Miller et Edward Nimmer, ce sont deux personnes pour qui, pour l'instant, je n'ai pas forcément eu le temps ni le plaisir de dialoguer pour l'instant. C'est en cours. Simplement, il faut savoir que ce genre de personnes sont extrêmement sollicitées, voient de tout, et il est très très difficile de pouvoir s'imposer comme étant une structure sérieuse et désireuse de faire quelque chose de positif.
Alors c'est impressionnant, parce que moi je suis en contre-plongée par rapport à elle. Je la vois depuis tout à l'heure tenir des câbles et tout ça. Et c'est vraiment un costume, c'est impressionnant.
Il y a des dimensions sonores.
Ça fait 22 kilos. Ça fait 22 kilos. Ça fait, il y a 38 pièces en temps normal complexe avec tous les inserts, etc. Mais là celle-ci, elle en fait déjà 28. C'est déjà pas mal. Et elle fait 22 kilos, et il faut à peu près 35 minutes, entre 30 et 35 minutes pour la monter entièrement. Partiellement, c'est 15 minutes.
J'ose à peine imaginer les envies pressantes.
Ça, on n'y pense jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on transpire tellement à l'intérieur qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'y aller, en fait. C'est-à-dire ce qu'on boit, c'est tout de suite éliminé. Après, il y a un système. Donc, ce qu'on a au niveau du midsection, donc ce qu'on appelle le midsection, c'est la partie abdominale de Robocop. On a un système qui permet, si vous voulez, d'y aller, pas très commode, mais ce qui est le plus dur, c'est de monter et descendre les escaliers, par exemple.
Oui, ça, on avait compris tout à l'heure quand tu nous as dit ah, mais il y a des escaliers, on s'est dit oups. Non, c'est tout droit.
Hein. Non, il n'y a pas de souci, mais parce que je marche avec des pistons métalliques qui sont derrière. Oui, quand je me déplace dans la convention, j'essaie d'avoir une tenue prude, enfin assez fière, pour montrer aux gens que malgré ma taille, et ça aussi j'admire Pat Fletcher, c'est que Pat Fletcher n'a pas forcément une carrure. Donc Pat Fletcher, c'est celui qui a joué Robocop dans Prime Directive, c'est-à-dire qu'il a fait un travail énorme de performance, de temps à rester sous l'armure, parce que c'est lui qui détient le record.
C'est combien le record?
Ben, je sais pas combien de temps, c'est une bonne question. Combien de temps Patch Fletcher est resté sous l'armure?
Oh, I don't remember.
Je s'en souviens plus.
The armor is very heavy.
Donc l'armure est très lourde, on a compris.
And they would take the Robo team half an hour to 45 minutes to put on.
Donc 35 minutes à 40 minutes,
voilà,
d'habillage.
Comme moi.
Et how long you don't exactly remember? 4 hours, 8 hours.
Patch Fletcher support the.
Oh, how long?
For a day.
Oh, all on a day?
Yeah.
Oh, all day. 14 hours.
À 14 heures, d'accord.
Il m'a battu, moi j'ai fait 8 heures. Respect pour Fletcher, d'autant plus. Donc voilà, donc ça c'est encore, j'apprends encore quelque chose.
We would take off the legs if we were filming the upper portion.
Ah oui, d'accord. Donc ils retirent les jambes quand ils font des plans américains, ce qui est quand
même
un
peu plus
agréable.
C'est ce qu'on appelle partiel. Oui, on appelle ça aussi partiel, puisqu'on fait un film.
D'accord, il y a un fan film de ton côté.
Voilà, de mon côté, qui est prévu donc en 2009, qui s'appelle Robocop versus Predator, qui est visible sur YouTube. Et donc on fait ça aussi dans les plans américains. On enlève le bas ou on soulage un maximum, parce que quand on fait par exemple, je sais pas moi, 10 heures d'affilée de tournage, alors entre les projos, le maquillage et tout ça, c'est très hard.
Oui, là j'ose à peine imaginer. Est-ce que quand tu c'est prends lycée, le bus avec le costume, tu as comme dans la série, tu as les pistons qui sortent des pieds?
Alors moi j'ai pas de pistons qui sortent des pieds, parce que ça c'est un Google Gadget au Sky Vision qui ont fait ça et Rigel malheureusement. Et mais en fait le plus important pour moi, c'est que Robocop, sa signature, c'est son pied, c'est à dire que c'est la première chose qu'on voit quand on sort
de la voiture.
Oh, ça fait, voilà. Là, elle a fait le bruit sur le carrelage, c'est vrai que c'est déjà impressionnant. Et en plus, tu as une électronique, tu as des sons que.
Voilà, alors ça, c'est quelqu'un qui m'a fabriqué ça pour moi, personnellement, que j'ai demandé, qui s'appelle Herve, il se reconnaîtra. Et il a fait ça spécialement pour moi, il a bossé super longtemps pour me choisir les sons. Donc, il m'a fait ce qu'on appelle un sound FX, donc qui avec des petits connecteurs. Que j'ai au bout des doigts, qui me permettent donc de pouvoir
activer faire des sons comme, voilà. Comme un synthé à la demande.
Ce qu'on appelle des cerveaux moteurs dans Robocop, c'est ce qu'on appelle le voilà, les choses comme ça. Et ça permet d'accentuer la gestuelle. Et j'ai aussi un voice FX, qui avec un laryngophone qui est en dessous. Là.
Ah oui.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Tu laisses tout ça porter, c'est impressionnant.
Une question qui nous a été soufflée par dans notre entourage juste avant l'émission. Alors, ça concerne les méchants de la trilogie au cinéma. Quel est votre méchant préféré? Est-ce que c'est Clarence Boddicker, Cain ou le Ninja?
Alors moi, personnellement, j'ai un faible pour Clarence, parce que c'est un petit peu lui qui a tout déclenché, on va dire. C'est-à-dire que sans Clarence, il n'y a pas réellement d'histoire. Je suis pas fan pour tout ce qui est Cain et puis Otomo, mais j'ai aussi et pour moi les plus grands méchants, c'est pas Clarence ni quoi que ce soit.
Cox.
C'est l'OCP en général. Pour Robo, je pense que, enfin pour Murphy, l'ennemi le plus important, c'est l'OCP, c'est ses créateurs, c'est eux qui l'ont muré dans cette armure et qui le séquestrent et qui lui font subir tout ça.
Et il y a un remake qui est en préparation, réalisé par Darren Aronofsky. Alors bon, le mot remake, ça fait hérisser tout le monde, mais bon, Aronofsky son nom a vite fait de rassurer tout le monde également. Comment Julian et toi vous attendez ce remake? Est-ce que ça a une fébrilité ou est-ce que vous êtes vraiment plein d'entrain parce que c'est Aronofsky qui va le faire?
I'm thrilled. RoboCop deserves to live, and Darren Aronofsky, I think, will do a fabulous job.
RoboCop mérite tout à fait d'exister, et a priori le nouveau réalisateur fait un super boulot.
La science-fiction, c'est le genre qui par définition périt. Et encore plus quand c'est de l'art. Science fiction is a kind of literacy of art rock movies. They are perishing by their own existence. Do you think there is a limit date where we can't produce anymore about Robocop? Est-ce que vous pensez qu'il y a une date limite au-delà de laquelle c'est même plus la peine de produire autour de Robocop?
Je suis sûr qu'ils vont dire non.
No, I think that RoboCop will live for a very long time.
D'accord, Thomas, je te dois des sous. He made the beat.
Much like Batman with The Dark Knight, it just needs to be reinvented and presented by a very talented artist. I've been lucky, I've had my chance. I look forward to seeing what Mr. Aronofsky will do.
D'accord. Ton avis en tant que fan?
Alors moi, je suis toujours, enfin, je suis un petit peu sous la réserve quand je vois, par exemple, on peut être très très bon réalisateur, on peut avoir tous les facteurs, mais Robocop est tellement un personnage, on va dire, complexe et qui a tellement, on va dire, entre guillemets, n'a pas eu forcément beaucoup de chance dans la productivité qui a été faite, ne serait-ce qu'autour des cartoons, autour de, voilà, ça fait rire certains, c'est pour ça que je dis que. Robocop, je pense que il a été quand même entre guillemets sali, malheureusement. Donc je suis un petit peu quand même sur une défensive, dans la mesure où j'entends dire à Aronofsky qui dit « Je veux réinventer Robocop ». Je pense que Robocop n'a pas besoin d'être réinventé, je pense simplement que Robocop a besoin de continuer son chemin en tant que policier et d'apporter ce qu'il a à apporter dans la société. C'est, à mon avis, je pense que ce n'est pas Robocop qu'il faut faire évoluer, mais c'est la société dans laquelle, lui, il évolue. Là est la différence. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre des gadgets là où il n'y en a pas. Il faut être sobre et mettre une technologie là où il en faut. Et justement, dans les Prime Directive, elles y sont. Et c'est un bon compromis entre notre technologie contemporaine et la technologie futuriste. Mmh.
Merci beaucoup à vous deux. Thank you very much for you two. Félicitations, franchement, pour ton costume. Mais après tout, même le premier flic de France a commencé petit. Donc c'est une blague qui est intraduisible.
Je suis le plus petit Robocop du monde, c'est-à-dire 1m55 et j'en ai pas honte. Et je suis une femme.
Voilà, mais ça reste impressionnant. Enfin bon, à mon avis, avec l'artillerie, je crois que tout le monde te respectera. With the guns everyone, we not make any remarks.
Merci. Thank you very much, Radio 89.1. It's a pleasure to be here.
Merci beaucoup.
Voilà, merci, au revoir.
Le supplément week-end donc sur Radio FMR. On est en direct donc du TGS, du Toulouse Game Show à la Bèche, donc avec l'interview. Vous avez compris, hein, c'est à la fois une fan impressionnante de Robocop et qui est en costume. Et donc le producteur des mini-séries, 4 mini-séries d'une heure et demie qui vont être bientôt diffusées sur Syfy en France. Et 4 mini-séries, donc Prime Directive, 4 épisodes, excuse-moi, de 1 heure et demie. Thomas,
moi j'avais juste l'occasion de saluer parmi notre entourage le créateur du site gpactu.com qui est là.
Voilà, il est tout content, voilà. Mais là, il est pressé. Il a un tournoi de Guitar Hero versus Pro Evolution Soccer.
Ah, attends, il faut on savoir que, c'est, ce que c'est le seul joueur à ma connaissance qui joue à Guitar Hero avec la manette.
D'accord, on passera la question tout à l'heure puisqu'on va essayer d'avoir le club DDR Bordeaux, ouais. Voilà, autour du jeu Dance Dance Revolution, donc c'est sur les jeux de Rhythm and Game, voilà, entre autres, et plein de choses, mais n'empêche qu'on a le planning qui avance et on va avoir tout à l'heure donc normalement Star Fiction qui va débarquer, et plein d'autres choses. Restez à notre écoute, voire accélérez si vous écoutez sur le podcast, c'est un peu couillon sinon... J'ai parlé tout à l'heure de Soph, donc des blogueuses, dessinatrices, qui donc a sorti The Plus Beau Métier du Monde. Il faut savoir qu'elle a été la deuxième à répondre à un appel de Pénélope Jolicoeur, qui est aussi une autre blogueuse bande dessinée très connue et qui a eu une très belle initiative. On ne peut que en parler. Ça s'appelle Mon Beau Sapin.
Mon Beau Sapin. monbeausapin.org. Donc c'est Pénélope Bagieux, donc l'auteur du blog Pénélope Jolicoeur, qui est le premier blog BD au niveau des référencements en France devant Boulet et devant Maliki. Donc elle a créé le blog monbeausapin.org dont la vocation est de payer des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés en partenariat avec Orange et la Croix-Rouge.
En fait le partenariat est très simple, c'est Orange qui va verser des sous à la Croix-Rouge et c'est donc la Croix-Rouge qui va acheter les cadeaux. Et comment ils vont faire, c'est très simple, c'est en fonction du nombre de visiteurs uniques. Plus on parle de ce blog, plus donc le principal sponsor violet ou jaune, je ne sais plus quelle est la couleur, va mettre des sous pour la Croix-Rouge, va augmenter la valeur du chèque qu'ils vont donner.
Sauf qu'elle a envisagé 100 000 visiteurs au bout d'un mois, elle les a atteints en une semaine. Donc ils ont déjà atteint leurs objectifs et maintenant le blog a été transformé puisque maintenant vous pouvez faire vos dons directement puisque les fameux dons proportionnels ont été atteints au bout d'une semaine. Mais par contre, vous pouvez toujours aller sur le site puisque le principe c'est que chaque jour, parce que si on veut aller voir le site, il faut bien voir quelque chose. Donc voilà. Ce sont des strips BD, donc il y a eu Laurel, Sof, Boulet, il y a eu plein d'autres dessinateurs avec des strips gratuits. Il y a eu aussi Martin Wittberg, etc.
Dont on a parlé encore tout à l'heure. Voilà, plein de choses et qui sont tout aussi intéressantes. Les news, je vous prie, Thomas, vas-y.
Ah oui, donc nous avons deux Johnny qui vont tourner ensemble puisque nous sommes ici.
Non.
Ah si. Mais quel Johnny, tu vas me dire?
Donc, Johnny Deep?
Ici, non, justement, ce n'est pas lui. Donc ici, nous sommes au TGS, plutôt game, mais aussi science-fiction et cinéma asiatique. Donc nous avons Johnny To, l'un des réalisateurs phares de Hong Kong, hein, puisqu'on a chroniqué beaucoup de ses films nous.
On a compris, Thomas, on a compris.
Dans cette émission, qui va, après le désistement pour son prochain film d'Alain Delon, le réalisateur hongkongais a porté son dévolu sur notre rocker national Johnny Hallyday.
Hein?
Oui, Johnny.
Oh non, pitié, pas ça.
Jean-Philippe Smet chez Johnny To.
Ça fait peur.
Alors, pour quel rôle, vous allez me demander, afin d'interpréter le premier rôle de son prochain thriller baptisé Vengeance et qui racontera l'histoire d'un assassin français devenu cuistot et qui sera à Hong Kong pour se venger d'un meurtre. Vous voyez Johnny dans ce rôle.
Qu'est-ce qu'il va cuisiner, Johnny? Des lunettes?
Oh, un petit Voilà. Le scénario est écrit par Waika Fai, donc c'est le vieux complice de Jonito qui a co-signé quelques-uns de ses films. On retrouvera aussi les acteurs ultra fétiches de Jonito, Anthony Wong, ça va faire plaisir à du sport, Simon Yam également, Lam Suet et Lam Katong.
Non, là, du sport, à mon avis, là, il est au désespoir. Hé, reprends-toi.
Le tournage est actuellement en cours à Hong Kong. Nous avons une news concernant John Carpenter.
Ça tombe bien, tiens.
Le mythique réalisateur de Halloween, de New York 97, et The Thing, et Les Aventures de Jack Burton, Fog, et Prince des Ténèbres, etc. Dans le dernier film plutôt moyen, Ghost of Mars, était sorti en 2001, et bien il va se remettre à la mise en scène.
Plutôt moyen, il y avait Ice Cube, et il y avait
Natasha Henstridge, oui. Mais bon, c'était quand même assez mauvais. Il faut dire que le bonhomme, entre-temps, a réalisé un segment des deux saisons de Masters of Horror, et il va se remettre au cinéma avec un film qui s'appelle que je retrouve mes notes The Prince qui expliquait Carpenter va essayer de transposer dans cette idée la thématique de Impitoyable de Clint Eastwood au sein d'une intrigue de film de gangster. Donc on va voir ce que ça donne, première fois qu'il va pas faire un remake de Rio Bravo, western ni SF, on va voir. C'était pour la news sur Carpenter. Et puis le site DVDrama a publié déjà à un mois de la fin de l'année leur top 5, leur top 15 sur leur film de 2008. Donc on peut déjà
lancer le classement là.
Non, pas encore, on peut déjà parler du top 15. Donc il y a Mérine, l'instinct de mort et l'ennemi public numéro 1, le diptyque. On a aussi La personne ou deux personnes, Rec, Hellboy 2, Sweeney Todd, Into the Wild, Martyr, The Mist, Wall-E qui n'est que 6ème, et donc il reste que les 5 premiers. Et qui dit 5 premiers dit top 5.
Le top 5. Numéro 5.
Numéro 5 des films 2008 par DVDrama, John Rambo.
Oh bah tiens, voyons, allez. Ah mince, je me suis trompé de touche, ça arrive. Hein.
Numéro 4.
Donc c'est le nouveau film de James Gray avec Joaquin Phoenix, Two Lovers, qui est actuellement encore à l'affiche.
Numéro 3.
Un film avec Daniel Day-Lewis, ça se refuse pas, c'est There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Numéro 3.
Numéro 2.
No Country for All Men, le nouveau film des Far Cohen avec Javier Bardem.
Attention, là, je crois que je commence à avoir peur. Il y a quelque chose à côté de moi. Ne te retourne pas, c'est l'arrivée du numéro 1.
Numéro 1.
Un film qui nous a tous scotchés et qu'on va retrouver en tête de pas mal de classements des films de 2008, c'est évidemment The Dark Knight. Qui fait absolument l'unanimité au niveau critique publique, box-office, etc. Donc voilà le top 5, le classement des films 2008 d'après DVDrama.
Et je peux vous dire que là, on la ramène beaucoup, beaucoup moins à côté de nous, puisque, je t'en prie, il y a un espèce d'individu absolument étrange et bizarroïde qui s'est installé à côté de nous.
Un sorcier que l'on ne nomme pas.
Voilà. Et qui a le micro rouge devant nous. Bonjour et bienvenue. Donc, bonjour. Tu représentes l'association Star Fiction. Et oui, c'est un costume absolument impressionnant que tu as. Un maquillage, excuse-moi.
Et costumé également.
Voilà. Donc, vous êtes venu d'une manière impressionnante. C'est pas avec ça que j'irai faire mes courses parce que sinon je me ferai choper par la sécurité.
On va préciser que nous avons le Lord Voldemort en face de nous.
Voilà. On l'a enfin.
Merci.
En tout cas, c'est un immense plaisir. Star Fiction, en fait, c'est une association de fans, principalement de films et de séries télé. Combien vous êtes actuellement de personnes réellement actives dans cette association?
On est une dizaine de personnes.
D'accord. Vous êtes créé comment? À quelle occasion, en fait, vous avez commencé à vous réunir?
Vous êtes rencontré sur des festivals?
En fait, on s'est connus lors de réunions à Paris, qui était un événement Star Wars. Et il nous est venu à l'idée de nous rassembler entre nous, puisque venir individuellement nous a coûté relativement cher, de se rassembler afin d'aller sur les différents salons, d'abord costumés. Et puis au fil du temps... Pardon, j'ai un problème avec la lèvre.
c'est vrai, il est vraiment costumé et tout, donc il y a de la prothèse, il y a en plus de la couche de maquillage, donc effectivement, c'est pas très ça doit pas être très évident d'articuler.
Faut dire que les sorciers, ça part surtout avec la baguette d'habitude.
Voilà. Et donc ensuite, on a fabriqué beaucoup de costumes en commun, tous ensemble, quoi, de costumes, accessoires. Après, on s'est mis dans la prothèse faciale, dentaire. Et puis maintenant, on fait aussi les décors.
Et est-ce que c'est une association qui a pour but de montrer votre savoir-faire ou est-ce que vous les vendez ensuite ?
Non, c'est uniquement pour montrer notre savoir-faire, d'accord, pour s'éclater dans tous les domaines qui touchent univers fantastique, science-fiction.
C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a vraiment un savoir-faire. Là, vous avez donc des maquilleurs qui d'ailleurs sont là. Je crois qu'il y a des gens du public qui peuvent se faire maquiller, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
Mais tout ce savoir-faire, vous l'acquérez comment ? C'est sur le tas, en cherchant sur le net, ou vous prenez des cours auprès justement de spécialistes d'effets spéciaux ?
Non, c'est que des passionnés. Donc c'est chercher à droite, à gauche et apprendre soi-même.
Du bricolage comme à l'heure du tâtonnement, comme à l'heure des défricheurs de ce côté-là, quoi.
Alors oui et non, puisqu'on voit beaucoup de sites qui sont faits par des professionnels, et donc ces professionnels nous aident énormément sur les techniques, puisqu'on n'utilise que des techniques de pro. Ça nous coûte d'ailleurs très cher.
Oui, c'est pas le maquillage que l'on trouve n'importe où. C'est des latex spéciaux, des certains types de pigments.
On a des magasins auprès de qui on peut se fournir et qui nous aident bien là-dessus, quoi.
Est-ce que certains membres de votre association ont trouvé des débouchés dans la création audiovisuelle ?
Rien du tout.
Et c'est parce que vous cherchez pas forcément ou...
Non, on cherche pas.
D'accord. Quelles sont vos relations justement ? Est-ce que des fois il y a des professionnels qui viennent vous voir de ce côté-là par amusance pour voir un peu comment vous travaillez ?
Non, pas du tout, non plus. On fait des prestations, effectivement, ce qui nous permet de payer nos déplacements et de payer le matériel. Après, ça sort aussi beaucoup de notre poche, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, personne ne vient, quoi.
D'accord. Vous vous rencontrez quand ? Est-ce que ce sont des réunions qui sont ouvertes au public ? On peut venir vous voir en dehors des festivals, des salons ?
Généralement, non, puisqu'on est plus réunis entre associatifs. Mais si les gens veulent venir nous voir, oui, il n'y a pas de souci. Donc, tout ce qui est essai de maquillage, après, tout ce qui est spécialisé, c'est vraiment plus sur les salons, choses comme ça.
D'accord.
Il faut savoir que Star Fiction n'est pas tout seul. En fait, on est binômé avec une autre association qui s'appelle Rune Squadron, Star Alliance. Mmh. Eux sont de Lyon, nous on est de Toulouse, mais les deux marchent toujours ensemble.
D'accord, et est-ce que vous pouvez nous présenter les différents stands que vous avez ici au TGS ? Vous avez donc un stand Harry Potter, vous avez également, vous occupez du stand Star Wars ?
Aussi, effectivement, du stand Pirates des Caraïbes et de la Porte des Étoiles.
Alors justement, sur le stand Star Wars, pourquoi avoir uniquement fait R2-D2 et pas 6PO ? Est-ce que c'est pour son côté kawaii ?
Ah non, R2-D2, c'est pas nous, c'est une autre association, le R2-D2 Club, qui eux ne font que du R2-D2.
D'accord.
Et vous faites des rencontres, des fois, entre clubs, vous ne rencontrez pas celui qui fait le plus beau maquillage, ce genre de choses ?
Non, il n'y a pas de concours, vraiment, quoi. C'est... Tout le monde montre ce qu'il aime faire et tout le monde s'éclate dans sa partie. C'est un complément, en fait, hein.
Est-ce que vous cherchez justement dans votre association, c'est plutôt sur les œuvres de fiction qui sortent maintenant, ou est-ce qu'il y a des périodes que vous affectionnez, les films de la Hammer, les séries des années 80
De tout. Moi je suis un fan de la Planète des Singes, j'ai un costume et un maquillage de la Planète des Singes, mais de la vieille série, du vieux film.
Avec Charlton Heston.
Voilà, le Galen.
Et est-ce que vous êtes spécialisé justement dans certains, du fait de votre morphologie, par exemple, de certaines créatures, donc la planète des singes, donc vous êtes habillé en Voldemort aujourd'hui, est-ce que vous serez déjà habillé en Voldemort demain ? Est-ce que vous êtes fait une spécialité de certains types de personnages ?
Effectivement, on a tous les gabarits, on va dire, dans l'association, et chacun cherche toujours à faire en fonction de son gabarit. Moi j'ai mon plus proche partenaire, on va dire, qui lui est plutôt costaud. Et donc il a le gabarit pour jouer Gibbs dans Pirates des Caraïbes, dont d'ailleurs il a le costume, celui qui est le lieutenant de Jack Sparrow. Mais c'est aussi le même gabarit qu'il faut pour Hellboy. Donc il est en train de se faire le costume d'Hellboy.
Ah oui, Hellboy, ça doit valoir le tour. Hein.
Et voilà. Puis là, il y a prothèse et tout le reste, quoi.
Là, il y a prothèse, il y a beaucoup de travail dessus.
Est-ce que des fois, quand vous regardez des films, quand vous regardez des séries, par exemple, qui sont des adaptations de comics, hein, puisqu'on parlait de Hellboy, qui va bientôt avoir les Watchmen qui vont sortir, est-ce que des fois, vous dites, mais franchement, ils auraient pu faire ça autrement, ou pourquoi ils ont pris un tel?
C'est vrai.
quelle est votre réception la plus récente?
C'est souvent effectivement des personnages où on est déçu parce que ça correspond pas à la BD ou c'est pas dans la logique du personnage. C'est vrai qu'on suit énormément les personnages.
Pardon. D'accord. Et donc il y a un acteur que vous trouvez particulièrement nul sur sa carrure ou sur sa prestation?
On va dire que généralement les acteurs qui sont nuls, on regarde pas les films.
Ah d'accord. Oui, ça va plus vite. Vous voilà. Avez raison. En tout cas, merci beaucoup.
Vous avez le physique pour incarner Dr Manhattan.
Ah oui, merci.
Enfin, il n'arrête pas de changer de taille, donc c'est un petit peu pénible. Hein. Oui. Et puis là, c'est autre chose, puisque là, il y a d'autres techniques qui sont utilisées, qui sont impressionnantes. On a pu voir les images. Félicitations. Merci beaucoup d'être venu, d'être passé nous voir. Donc, vous êtes présent pendant tout le salon. Et en dehors du salon, on peut vous trouver sur un site web.
Tout à fait. Je voulais juste dire qu'au niveau du salon, il y a aussi une école de maquillage qui travaille avec nous, qui est l'école Michel Dumas. Et qui, cette école, fait le maquillage sur tous les gens qui le désirent. Donc, c'est juste du grimage. Mais les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Les maquilleuses sont là à leur disposition.
D'accord. Et votre site internet sur lequel on peut vous retrouver?
Actuellement, il n'est pas à jour parce que TGS nous a pris beaucoup de temps, mais c'est www.starfiction.net.
D'accord, on mettra le lien dans les commentaires de l'émission. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'être passé.
Toujours un plaisir d'accueillir Roland Voldemort au micro.
Si vous voulez, je peux vous amener Harry Potter.
N'hésitez pas à faire peur à des gosses, nous, ça nous fait plaisir.
Ouais, moi aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Mon week-end numéro 179 en direct.
Je ne vous entends déjà plus, on va rendre l'antenne.
Ah non, mais c'est pas ça, c'est juste que voilà, quoi, que du sport, elle a dit oh, ça va pas, j'ai un commerce de sifflets à vendre pour le match Toulouse-Tunisie là. Oh.
Alors attends, déjà, match Toulouse-Tunisie, ça peut pas exister donc.
France-Tunisie, donc on verra ça. Oui, excuse-moi, ça fait un. Voilà, donc le supplément week-end était en direct du Toulouse Game Show. On va continuer les interviews, nous, de notre côté, mais ce sera en différé. Donc, ça émaillera, comme d'habitude, l'ensemble de l'émission. Encore plein d'autres, encore à diffuser, qui ont été faites à Japan Expo, à Angoulême.
Plus beaucoup, on a Terra Tag.
Oui, Premier Juré, voilà. Et quelques autres, enfin bon, voilà. En attendant, merci d'être à notre écoute. Pour ceux qui nous écoutent en direct, vous pouvez réécouter en différé sur le site supplémentweekend.fr et tout le reste. Mais, en attendant, Zou. Thomas, tu vas me faire le résumé. Thomas, s'il te plaît, peux-tu me faire le résumé pour tous ceux qui donc ont pris l'émission en cours de route? Bon, allez, pas... de mémoire, t'as pas noté.
On a eu pas mal d'activités aujourd'hui. On a reçu évidemment Chibicop, Murphy 38, ainsi que le Julian Grant, le réalisateur de la mini-série Robocop. On a reçu Joe de Starfiction. On a reçu Raphaël d'Imaginaire. Beaucoup d'invités qui nous ont fait l'amabilité de venir nous voir ici. Et puis voilà, on a aussi parlé de bande dessinée, de cinéma, comme on a pu.
Voilà, de toute façon, vous avez compris, hein. C'est que du bouche-trou. Vous connaissez notre manque total de professionnalisme de ce côté-là. C'est rien. C'est un qui à côté.
Mais
qui...
ils ont manqué tout ça.
Mais vous avez manqué de... ils ont manqué tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Mais grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net.
De suite, c'est du sport, donc jusqu'à 15h. Et à partir de 15h, normalement, c'est du reggae, donc avec Zarmafari. Et à 17h, donc Booster qui reprend. Et nous, on sera de nouveau en studio, en cave, la semaine prochaine. Ouais. Avec des conditions de travail un petit peu plus normales, nom de Dieu. Et peut-être donc un auteur invité pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On verra ça, ciao, bye bye,
ciao.